niaiseries des propos, la satisfaction imbécile transpirant sur les fronts en sueur. Cependant, la conscience de mieux valoir que ces hommes atténuait la fatigue de les regarder. Il allait tous les jours à l'art industriel, et pour savoir quand reviendrait Madame Arnoux, il s'informait de sa mère très longuement. La réponse d'Arnoux ne variait pas. Le mieux se continuait. Sa femme, avec la petite, serait de retour la semaine prochaine. Plus elle tardait à revenir, plus Frédéric témoignait d'inquiétude, si bien qu'Arnoux, attendri par tant d'affection, l'emmena 5 ou 6 fois dîner au restaurant. Frédéric, dans ses longs tête-à-tête, reconnut que le marchand de peinture n'était pas fort spirituel. Arnoux pouvait s'apercevoir de ce refroidissement, et puis c'était l'occasion de lui rendre un peu ses politesses. Voulant donc faire les choses très bien, il vendit à un brocanteur tous ses habits neufs, moyennant la somme de 80 francs, et l'ayant grossi de 100 autres qui lui restaient, il vint chez Arnoux le prendre pour dîner. Regimbard s'y trouvait. Ils s'en allèrent aux 3 frères provençaux. Le citoyen commença par retirer sa redingote, et sûr de la déférence des 2 autres, écrivit la carte. Mais il eut beau se transporter dans la cuisine pour parler lui-même au chef, descendre à la cave dont il connaissait tous les coins, et faire monter le maître de l'établissement, auquel il donna un savon, il ne fut content ni des mets, ni des vins, ni du service. À chaque plat nouveau, à chaque bouteille différente, dès la première bouchée, la première gorgée, il laissait tomber sa fourchette ou repoussait au loin son verre. Puis, s'accoudant sur la nappe de toute la longueur de son bras, il s'écriait qu'on ne pouvait plus dîner à Paris. Enfin, ne sachant qu'imaginer pour sa bouche, Regimbard se commanda des haricots à l'huile, tout bonnement, lesquels, bien qu'à moitié réussis, l'apaisèrent un peu. Puis il eut avec le garçon un dialogue, roulant sur les anciens garçons des Provençaux. Qu'était devenu Antoine? Et un nommé Eugène? Et Théodore, le petit, qui servait toujours en bas? Il y avait dans ce temps-là une chair autrement distinguée, et des têtes de Bourgogne comme on n'en reverra plus. Ensuite, il fut question de la valeur des terrains dans la banlieue. Une spéculation d'Arnoux infaillible. En attendant, il perdait ses intérêts. Puisqu'il ne voulait vendre à aucun prix, Regimbard lui découvrirait quelqu'un, et ces 2 messieurs firent, avec un crayon, des calculs jusqu'à la fin du dessert. On s'en alla prendre le café, passage du saumon, dans un estaminet à l'entresol. Frédéric assista, sur ses jambes, à d'interminables parties de billard, abreuvées d'innombrables chopes, et il resta là, jusqu'à minuit, sans savoir pourquoi, par lâcheté, par bêtise, dans l'espérance confuse d'un événement quelconque favorable à son amour. Quand donc la reverrait-il? Frédéric se désespérait. Mais un soir, vers la fin de novembre, Arnoux lui dit « Ma femme est revenue hier, vous savez. » Le lendemain, à 5 heures, il entrait chez elle. Il débuta par des félicitations à propos de sa mère, dont la maladie avait été si grave. « Mais non, qui vous l'a dit ? Arnoux ?» Elle fit un « A » léger, puis ajouta qu'elle avait eu d'abord des craintes sérieuses, maintenant disparues. Elle se tenait près du feu, dans la bergère de tapisserie. Il était sur le canapé, avec son chapeau entre ses genoux. Et l'entretien fut pénible, elle l'abandonnait à chaque minute. Il ne trouvait pas de joint pour y introduire ses sentiments. Mais, comme il se plaignait d'étudier la chicane, elle répliqua « Oui, je conçois, les affaires. » En baissant la figure, absorbé tout à coup par des réflexions. Il avait soif de les connaître et même ne songeait pas à autre chose. Le crépuscule amassait de l'ombre autour d'eux. Elle se leva, ayant une course à faire, puis reparut avec une capote de velours et une mante noire bordée de petits gris. Il osa offrir de l'accompagner. On n'y voyait plus. Le temps était froid, et un lourd brouillard estompant la façade des maisons puait dans l'air. Frédéric le humait avec délice, car il sentait à travers la ouate du vêtement la forme de son bras, et sa main, prise dans un grand chamois à 2 boutons, sa petite main qu'il aurait voulu couvrir de baisers, s'appuyait sur sa manche. À cause du pavé glissant, ils oscillaient un peu. Il lui semblait qu'ils étaient tous les deux comme bercés par le vent, au milieu d'un nuage. L'éclat des lumières sur le boulevard le remit dans la réalité. L'occasion était bonne, le temps pressait. Il se donna jusqu'à la rue de Richelieu pour déclarer son amour. Mais presque aussitôt, devant un magasin de porcelaine, elle s'arrêta net en lui disant « Nous y sommes, je vous remercie. À jeudi, n'est-ce pas, comme d'habitude ?» Les dîners recommencèrent, et plus il fréquentait Madame Arnoux, plus ses langueurs augmentaient. La contemplation de cette femme l'énervait, comme l'usage d'un parfum trop fort. Cela descendit dans les profondeurs de son tempérament et devenait presque une manière générale de sentir, un mode nouveau d'exister. Les prostituées qu'il rencontrait au feu du gaz, les cantatrices poussant leurs roulades, les écuyères sur leurs chevaux au galop, les bourgeoises à pied, les grisettes à leurs fenêtres, toutes les femmes lui rappelaient celle-là, par des similitudes ou par des contrastes violents. Il regardait, le long des boutiques, les cachemires, les dentelles et les pendeloques de pierreries, en les imaginant drapées autour de ses reins, cousues à son corsage, faisant des feux dans sa chevelure noire. À l'éventaire des marchandes, les fleurs s'épanouissaient pour qu'elle les choisît en passant. Dans la montre des cordonniers, les petites pantoufles de satin à bordure de cygne semblaient attendre son pied. Toutes les rues conduisaient vers sa maison. Les voitures ne stationnaient sur les places que pour y mener plus vite. Paris se rapportait à sa personne, et la grande ville avec toutes ses voix bruissait, comme un immense orchestre autour d'elle. Quand il allait au jardin des plantes, la vue d'un palmier l'entraînait vers des pays lointains. Ils voyageaient ensemble, au dos des dromadaires, sous le dentelet des éléphants, dans la cabine d'un yacht parmi les archipels bleus, ou côte à côte, sur deux mulets à clochettes, qui trébuchent dans les herbes contre les colonnes brisées. Quelquefois, il s'arrêtait au Louvre devant de vieux tableaux, et son amour l'embrassant jusque dans les siècles disparus, il la substituait aux personnages des peintures. Coiffée d'un hennin, elle priait à deux genoux derrière un vitrage de plomb, seigneuresse des Castilles ou des Flandres. Elle se tenait assise, avec une fraise empesée et un corps de baleine à gros bouillons. Puis, elle descendait quelques grands escaliers de porphyre, au milieu des sénateurs, sous un dais de plumes d'autruche, dans une robe de brocart. D'autres fois, il la rêvait en pantalon de soie jaune, sur les coussins d'un harem, et tout ce qui était beau, le scintillement des étoiles, certains airs de musique, l'allure d'une phrase, un contour, l'amenait à sa pensée d'une façon brusque et insensible. Quant à essayer d'en faire sa maîtresse, il était sûr que toute tentative serait vaine. Un soir, Dittmer, qui arrivait, la baisa sur le front. La Maria se fit de même en disant « Vous permettez, n'est-ce pas, selon le privilège des amis ?» Frédéric balbutia « Il me semble que nous sommes tous des amis. »